Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, d'opinions, puisqu'à partir de 13h, vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce mercredi 3 août. Les titres, justement, les voici. La France, cette gigantesque étuve. Très peu de personnes sont épargnées par la canicule aujourd'hui, ce qui a des conséquences pour nos organismes. Cela se voit concrètement dans les hôpitaux. Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, sera notre invité dans quelques minutes. Les prévisions météo. Bonjour Anthony Kazmarek, pardon.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
La bonne nouvelle Anthony, si on regarde le verre à moitié plein, ça y est, nous sommes au pic de la canicule.
Oui, parce que la mauvaise, c'est que ce pic va durer 2 jours, notamment dans les 26 départements en vigilance orange canicule, entre le Midi Toulousain et la Corrèze, entre la vallée du Rhône et les Alpes du Nord, entre le Puy-de-Dôme, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Alsace. Dans ces régions, aujourd'hui comme demain, on sera souvent entre 35 et 39 degrés. Pour cet après-midi, prévoyez 31 degrés à Marseille grâce à une petite brise marine, 32 à Lille, 35 à Nantes, 36 à Paris et Strasbourg, 37 à Limoges, 38 à Lyon et Grenoble, jusqu'à 40 degrés à Montauban et Cahors, le tout sous le soleil, à peine quelques grisailles près de la Manche et un petit voile de nuages qui va arriver par l'ouest en cours de journée. Il y aura enfin quelques averses orageuses sur les reliefs du sud.
Merci beaucoup Anthony, évidemment on vous retrouve à 13h pour un nouveau point. La Chine met ses menaces à exécution, elle déploie des sanctions commerciales contre Taïwan, début des exercices militaires. La visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, a mis Pékin très en colère. Le Sénat a largement raboté l'aide d'urgence cette nuit. Seuls les travailleurs les plus modestes y auront droit à la rentrée et non plus les bénéficiaires du RSA ou encore les étudiants boursiers. Sur RTL.fr, on vous posait cette question aujourd'hui. Selon vous, les aides doivent-elles bénéficier en priorité aux travailleurs? C'est le oui qui l'emporte à 66%. Le non recueille 29%. Vous êtes nombreux à appeler au 3210 pour réagir sur ce sujet. À partir de 13h, on attend vos réactions. N'hésitez pas.
RTL Midi.
Alors que le soleil est au zénith, que nous sommes au pic de cette troisième vague de canicule, Anthony, vous nous le disiez il y a un instant, la sensation de cuir à l'étouffée concerne la plupart d'entre nous. 26 départements sont toujours placés en vigilance orange. La Haute-Garonne en fait partie. Et justement, Patrick Tégéraud, vous êtes à Toulouse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bah, c'est très simple, la ville rose suffoque encore une fois.
Oui, c'est ça. La chape de plomb est encore retombée sur Toulouse. Les rues sont en voie de désertification. Heureusement, il y a un petit peu de vent. Mais tout effort à l'extérieur devient très vite une souffrance. Et il reste des hommes qui souffrent. Comme ces deux maçons, ils construisent des trottoirs d'une rue toulousaine qui vient malheureusement de basculer en plein soleil. Paolo et Lucas ont leur bouteille d'eau toujours à portée de main.
Alors en fait, nous rapprochons des moyens spécialisés, des zones classées en danger très sévère. Et ça nous permet comme ça de réduire.
Donc là, il s'agit d'une petite erreur de manipulation. Là, ce sera donc tout à l'heure que nous entendrons le patron des pompiers de Haute-Garonne qui va nous expliquer tout ça. Je vous propose d'écouter tout de suite donc nos interlocuteurs, si j'arrive à le faire fonctionner.
S'ils arrivent voilà. À retrouver leur bouteille d'eau.
Oui, oui, si j'arrive à retrouver leur bouteille d'eau. Ça y est, on a...
Avec du citron.
La bouteille d'eau de Paolo et Luca qui est aromatisée, bien entendu.
Avec du citron, c'est bien pour les reins. Beaucoup d'eau, peu de crème solaire. La casquette en bronze, mais c'est bon.
Non, ça devient de plus en plus dur, non?
Oui, l'habitude, honnêtement. C'est toujours pareil. Hein. Ça garde la forme, moi.
La casquette obligatoire. Hein. Normalement, c'est le casque obligatoire, mais le casque, il chauffe trop ça.
Ouais, c'est trop dur.
On transpire beaucoup. Et après le soir, on dort. On va pas à la salle, le soir.
Et par bravade, ils m'annoncent qu'ils seront toujours à leur poste demain.
Et les risques liés à la chaleur, Patrick, on y arrive, les risques sont tels que les secours se réorganisent. Vous me le disiez, hein, vous n'aviez jamais vu ça.
Oui, c'est un dispositif que l'on connaît en effet dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Hérault, mais c'est une première ici. Le lieutenant-colonel Sébastien Lamadon-Perrier est le directeur opérationnel des services d'incendie et de secours de Haute-Garonne. Il a dispersé 4 équipes feux de forêt en périphérie toulousaine.
Alors en fait, nous rapprochons des moyens spécialisés, des zones classées en danger très sévère, et ça nous permet comme ça de réduire les délais en cas de survenue d'un incendie. La Haute-Garonne n'est pas véritablement un département à risque majeur feu de végétation. Néanmoins, la zone d'influence, l'évolution du climat, lorsque les 3 facteurs clés sont atteints, hein, 30 km/h de vent, moins de 30% d'hygrométrie et plus de 30 degrés, eh bien nous sommes dans des zones de danger réel.
Dimanche soir, par exemple, 25 hectares de broussailles et de champs ont brûlé à Léguevin, au sud-ouest de Toulouse, à quelques kilomètres seulement des immenses lotissements qui encerclent l'agglomération toulousaine.
Merci beaucoup Patrick Tégéraud, en direct de Toulouse pour RTL. Avec ces chaleurs, forcément, nos organismes fatiguent beaucoup plus vite. Notre invité dans RTL Midi, Patrick Peloux, bonjour à vous. Patrick Peloux, vous nous entendez ?
Bonjour.
Bonjour, vous êtes médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Constate-t-on un effet canicule dans les services en ce moment même ?
Oui.
Nous allons peut-être tenter de vous rappeler, Patrick Peloux, on a un petit souci de liaison et on vous entend extrêmement après, ce qui fait un gros silence à l'antenne. Je vous retrouve dans un petit instant. On va en attendant retrouver Frédéric Perruche, car avec de telles températures, on le disait, nos organismes sont mis à rude épreuve, mais être en bord de mer, à la piscine ou à proximité d'un plan d'eau, ben, forcément, ça aide. Vous êtes dans la Drôme, Frédéric Perruche, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes notre fil rouge hein, depuis ce matin dans un camping de Saint-Donat sur l'Herbasse. Et là, justement, grosse affluence sur les bords du lac, disons même carrément dedans.
Ah oui, pas d'autre choix que de se baigner alors que le mercure dépasse déjà les 30 degrés. Même dans une eau plutôt chaude à 25 degrés, ça rafraîchit les petits et les grands.
Ça rafraîchit très très bien. On est en train de jouer, on fait des courses.
Et elle est bonne l'eau ici, elle est bonne.
Ça fait du bien ?
Oui. Ouais. Donc c'est cool d'être venu là.
C'est très très cool.
Oui, je me suis baignée. On est allé jusqu'à la plateforme, on est allé faire des sauts et on est revenu.
Au début elle est froide, mais à la fin elle est bonne.
Ah ben bien obligatoire. Voilà, il fait très chaud, franchement il fait très chaud. Ça va chiller, puis après il y aura l'heure de l'apéro.
Ça ne doit pas tarder.
Vous vous préparez ?
On se prépare, voilà. Voilà, on est bien, voilà, on est très bien là.
Alors à l'heure du déjeuner, l'atmosphère est un peu plus suffocante, c'est peu dire, sous les hauts vents des caravanes. Mais Claudette, retraitée, supporte tant bien que mal cette très forte chaleur.
Avec les ventilos, ça va. Faut le ventilo, à l'ombre. Il y a de l'air, alors quand même, ça va. Bon, oui, parce que la clim, on la met que l'après-midi quand on va faire la sieste. Et le soir, on la met pas. Hein. Par contre, pour cuisiner, on cuisine froid. Hein. Ah ouais, on met des salades. Hein.
Voilà, des salades et de l'eau. Il devrait faire 37 à 38 degrés cet après-midi et pas de baisse du mercure attendue avant dimanche.
Merci beaucoup et bonne baignade Frédéric Perruche dans la Drôme pour RTL. Et ça y est, la liaison est rétablie avec Patrick Peloux, pardon, hein, pour ce petit dysfonctionnement. En tant que président de l'Association des médecins urgentistes de France, Patrick Peloux, je vous demandais si l'on constatait un effet canicule en ce moment même dans les services d'urgence.
Oui, c'est toujours le même scénario en fait. C'est-à-dire que là, les premières personnes touchées, c'est un peu le témoignage qu'a fait votre reporter sur Toulouse. C'est-à-dire, ça va être les travailleurs de force, d'accord ? Ça va être, et on le voit notamment dans les grandes agglomérations, les sans domicile fixe, parce qu'ils sont en train de cuire au soleil en fait. C'est ceux que vous voyez encore sur les bancs et qui sont en train de se dessécher. Doucement mais sûrement. Et puis bien sûr, ceux qui font du sport, et je vous redis qu'il ne faut pas faire du sport quand il fait des grosses chaleurs comme ça.
Et même quand on est un jeune en très bonne santé, on est d'accord.
Surtout pas. On en a eu un il y a 48 heures et c'est dramatique. Parce que vous faites l'hyperthermie d'effort qui est très connue des militaires. Il ne faut absolument pas faire de sport. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de grave qui est en train en fait de se produire en termes de santé publique et bien entendu les personnes âgées, parce que si vous voulez, les logements sont totalement inadaptés pour la plupart, hein, tout le monde n'a pas en effet de climatiseur ou d'isolement de l'appartement ou de la maison, ce qui fait que, et notamment les plus pauvres et les personnes âgées, et ben en fait elles suffoquent avec la chaleur et le faible écart qu'il y a entre la nuit et le jour.
On est d'accord, Patrick Peloux, on n'en est vraiment pas à ce qui s'était passé en 2003.
Non, on n'en est pas là parce que si vous voulez, vous en parlez, les messages de prévention sont passés par le gouvernement et quelque part, ça fait 20 ans pratiquement, hein, la canicule de 2003. Donc on a eu une évolution de civilisation qui a compris qu'il y avait le réchauffement climatique, qui a compris qu'il fallait s'en protéger. Donc ce n'est pas le même schéma, mais ça a quand même des conséquences. On voit là, par exemple, hein, de manière insidieuse, une montée des infarctus du myocarde, des embolies pulmonaires, des coliques néphrétiques, donc des choses plus ou moins graves, mais qui sont liées à la déshydratation et à la chaleur.
Alors, on a tiré des enseignements, mais j'imagine qu'il y a encore du chemin à parcourir nos habitudes.
Beaucoup, parce que si vous voulez, on ne pourra pas, hein, si vous lisez, vous l'avez lu, le rapport du GIEC 2022, et ce que disent vos journalistes climatologues et de météo, c'est très inquiétant ce qui va se passer dans les futures années. Et on ne pourra pas se retourner, si vous voulez, vers le système de santé pour empêcher tout ça. Ça ne sera pas possible. Donc, si vous voulez, en prévention, va falloir sans doute repeindre, comme c'est dit, hein, si vous repeignez les toits et les rues en blanc, vous diminuez de plusieurs degrés la température. Va falloir mettre beaucoup d'arbres, va falloir se protéger de la chaleur. Et ça, c'est un travail à long terme, c'est pas un travail du jour au lendemain. Et le tout climatisation, par exemple, n'est pas possible, parce que si vous voulez, vous engendrez vous-même le réchauffement climatique. Donc il faut vraiment, il y a un big bang à avoir, parce que vous ne pourrez pas vous retourner sans arrêt sur le système de santé pour dire, écoutez, il va faire une canicule, mais les hôpitaux vont pouvoir faire face, parce qu'actuellement, on ne peut pas faire face à ce qui va se passer.
Avant de nous quitter, Patrick Peloux, quelques conseils à nous donner. Alors évidemment, on dit aux personnes les plus fragiles, les personnes âgées, de s'hydrater correctement. Est-ce que l'on peut aussi rappeler que c'est pas mal d'aller voir son petit voisin ou sa petite voisine qui est isolée ?
Oui, c'est ce qu'on a vu, j'étais de garde cette nuit, c'est ce que j'ai constaté avec une personne âgée qui avait été oubliée et qui décédait chez elle. C'était étouffant chez elle. Donc en effet, il faut faire preuve de solidarité. Appelez vos familles, appelez-les tous les jours, voir si ça répond, voir s'ils comprennent ce qui se passe. Boire, bien sûr, ça faut boire beaucoup. Hein. Un adulte de corpulence normale, c'est à peu près aujourd'hui 2,5 litres, 3 litres hein, d'eau, mais ça peut être aussi du thé, ça peut être de l'eau pétillante, peu importe, il faut boire. Il faut adapter les traitements, c'est très important. Il faut adapter les traitements des patients qui sont avec des maladies chroniques et qui ont par exemple des laxatifs, qui ont par exemple des traitements avec des produits qui sont pour le cœur, pour les poumons, etc. Donc ça, c'est très important.
Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie.
Non, c'est juste, je répète pour les sportifs, ne faites pas du sport, hein, entre en gros 11h et 18h, ne faites surtout pas de sport ou d'effort. Si vous vous sentez obligé d'en faire, vous en faites avec quelqu'un, mais vraiment de manière très très douce. Voilà.
Mille merci Patrick Peloux d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France. La chaleur est également très difficile à supporter en prison, mais ce n'est pas ce qui a motivé la venue du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, au Beaumet, à Marseille, aujourd'hui. Non, le ministre doit surtout s'entretenir avec les riverains de l'établissement qui sont excédés par le bruit. Nous vous en avions parlé sur RTL, nous avions parlé de Brice Louge, cet ouvrier agricole de 30 ans, disparu en février dernier après avoir été surpris dans le lit de sa patronne. Son corps a finalement été retrouvé. Patrick Hisson, reste à déterminer les causes de sa mort.
Oui, c'est la question qui reste posée pour l'instant, mais c'est évidemment une avancée décisive dans cette affaire où le mystère s'était progressivement épaissi. Le corps de l'ouvrier agricole a été retrouvé dans sa voiture tombée dans un canal, le canal du Camon, proche du lieu où Brice avait disparu. Pour maître Joris Morel, l'un des avocats de la famille de Brice, l'enquête progresse, mais elle n'est pas terminée.
La famille de M. Louche va pouvoir faire son deuil et maintenant les causes du décès elles doivent être impérativement clarifiées. Il nous manque des informations, les enquêteurs doivent travailler sur ce point, mais il nous faut des réponses. Je ne crois pas que la piste criminelle puisse être si rapidement écartée. Il faut qu'elle soit étudiée comme les autres. On ne sait pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais il faut que toutes les pistes soient étudiées de la même façon.
À cet égard, l'autopsie du corps devrait permettre de clarifier l'origine du décès. Un décès qui apparaît pour le moment aux yeux des enquêteurs comme le résultat d'un accident ou d'un suicide compte tenu des chocs constatés sur la Renault Clio qui va être évidemment expertisée. Mais à l'instant, le procureur de Saint-Gaudens s'affirme, lui, il est beaucoup plus prudent, qu'aucune thèse n'est à ce stade privilégiée.
On suivra évidemment les résultats de cette autopsie. Merci beaucoup Patrick Hisson. Pour RTL, la colère de la Chine, elle ne retombe pas après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Pékin met ses menaces à exécution, on en parle dans un instant.
RTL Midi.
RTL Midi.
Avec Agnès Bonfillon.
La Chine avait prévenu, elle met ses menaces à exécution après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. La présidente de la Chambre des représentants américaine vient tout juste de quitter Taipei. Mais la colère de Pékin donc ne retombe pas. Stéphane Pambrun.
Nancy Pelosi sera restée moins de 20 heures à Taïwan. Et déjà, les sanctions pleuvent côté chinois. Sanctions économiques avec la suspension des importations d'agrumes, de poissons et de sable de Taïwan. Mais surtout, représailles militaires. Dans quelques heures, la Chine va lancer une vaste opération visant à bloquer le détroit de Taïwan. Une zone stratégique par laquelle transite un tiers du commerce mondial. Pendant trois jours, plus aucun porte-container ni aucun avion de ligne ne pourra traverser la zone. Les ports de Taïwan seront bloqués et déjà, on redoute sur l'île des pénuries de gaz et de pétrole. Pour la Chine, ce sont des actions légitimes. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères. Il n'arrivera rien de bon à ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui offensent la Chine devront être punis. Pékin revendique 80% de la mer de Chine, y compris ce détroit considéré pourtant comme une zone de libre circulation. Les États-Unis ont déployé la 7e flotte et plusieurs porte-avions dans cette nouvelle poudrière.
Stéphane Pombrun, le correspondant de RTL en Chine. Il est midi 47. En votant cette nuit le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat, les sénateurs ont largement raboté l'aide exceptionnelle de rentrée. Elle devait concerner les étudiants boursiers, les allocataires du RSA. Et finalement, eh bien, si le texte reste en l'état, seuls les travailleurs déjà bénéficiaires de la prime d'activité pourront y prétendre avec les adultes handicapés. C'est deux fois moins de foyers concernés. Invité de RTL Matin, Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains Assume.
Ce que veulent les Français, ça n'est pas la charité, ce sont des aides. Et les Français, beaucoup de Français qui travaillent, qui triment au travail, en ont marre d'une société où souvent on assiste. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus.
Les bénéficiaires redécouvrent qu'ils risquent de devoir faire sans cette aide. 100 euros par foyer, les familles précaires dont s'occupe Lucie, travailleuse sociale, sont les premières concernées.
Quelqu'un qui aurait ça ou qui est étudiant boursier, c'est quelqu'un qui vit avec très peu. 500 euros par mois, c'est vraiment pas grand-chose pour vivre. Donc 100 euros, notamment à la rentrée pour des étudiants, c'est pouvoir se racheter un matériel pour faire ses études. Ou pour quelqu'un qui est au RSA, qui a des enfants, c'est pouvoir leur acheter des vêtements, leur acheter un cartable ou tout simplement du matériel scolaire. 100 euros, c'est déjà énorme. Ça représente un cinquième de leur aide.
Des propos recueillis par Anaïs Bouissou pour RTL. On attend votre avis sur le sujet. Appelez-nous au 3210. Les derniers chiffres concernant la variole du singe. 2000 cas recensés essentiellement en Île-de-France, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Un grand centre de vaccination doit ouvrir ses portes à Marseille et la vaccination en pharmacie devrait être expérimentée dans les prochains jours. Sur le sujet, certains députés de l'opposition demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire. Elle pourrait voir le jour, cette commission, lors de la rentrée en octobre. Car oui, dès la fin de la semaine, eh bien, les élus sont en vacances. L'occasion de faire un premier bilan pour les plus jeunes, ceux qui ont entamé leur premier mandat. Que pensent-ils de leur nouveau métier pour RTL ? Mathilde Piquet, vous avez rencontré certains d'entre eux.
Oui, cartable à la main, ils sont encore un peu perdus dans le labyrinthe de l'Assemblée. Il a aussi fallu s'habituer aux séances interminables dans l'hémicycle. Pas toujours simple pour l'insoumis David Guiraud, 29 ans.
Il y a des moments où je décroche, hein, ça arrive. Sur une séance qui dure parfois 15 heures d'affilée, bon bah oui, il y a des moments, il y a des trucs que j'ai pas compris, ça arrive. On a des gens en qui on fait confiance et qui nous disent, bah voilà, moi cet amendement-là, je le sens pas, on le vote pas, ou alors celui-là, je le sens bien.
Des camarades de classe expérimentés qui ont guidé les débutants, Pierre Cazeneuve, député Renaissance de 27 ans, a été épaulé, même pour les choses les plus élémentaires.
Faire son passe Navigo, recruter ses collaborateurs, installer son bureau, prendre une assurance pour sa permanence, voilà, finalement, tout à fait commun.
Épreuve que ce métier ne ressemble à aucun autre. Au détour d'un couloir, on trouve un bureau de poste, un salon de coiffure, un monde parallèle pour Thomas Ménager du RN, tout juste 30 ans.
C'est le côté ville dans la ville, d'être coupé du monde parfois, quand on a eu des séances de nuit, quand vous arrivez à 9h le matin, vous repartez le lendemain à 7h, c'est toujours assez étonnant quand on n'y est pas habitué.
Alors à la rentrée, il faudra plonger dans le grand bain, et ça pour 5 ans.
Le reportage de Mathilde Piquet pour RTL. Réserver une table au restaurant et finalement ne pas y aller sans avertir l'établissement, la pratique est de plus en plus courante. À la Maman Non, le no-show. Cela a un véritable impact, évidemment, sur les professionnels du secteur qui dénoncent ce manque de correction, Pierre Herbulot.
Oui, imaginez une table de 4 réservée pour 20h30. L'horloge tourne, 20h45, 21h, toujours personne. Et trop tard pour reprendre des clients. Un manque à gagner à cause d'un manque de civisme. 10% des réservations dans le restaurant de Tom Meyer, le chef de Granit dans le centre de Paris.
Quelqu'un qui prend une table pour son patron et il réserve dans plusieurs restaurants différents en se disant bon, on a le choix entre un italien, un asiatique, un restaurant gastronomique ou traditionnel français, et il se laisse la liberté de choisir au dernier moment. Sauf que nous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un schéma économique. Ce qui coûte le plus cher dans un restaurant, c'est le siège vide. Quand on a un client qui nous dit à 10h30, oui, je suis là ce midi, et 2 heures plus tard, qui ne vient pas, c'est vrai que ça peut vite être énervant et en fait, ces tables qu'on va perdre sur un midi ou sur un soir, en fin d'année, ça nous fait peut-être un salarié de moins.
Comme des centaines de chefs, Tom Meyer a signé une tribune en ligne pour dénoncer cette pratique de plus en plus courante. C'est pour l'enrayer que les restaurateurs commencent à demander des empreintes bancaires au moment des réservations, l'équivalent du prix d'un menu sans boisson par couvert, débité uniquement si les clients ne se présentent pas.
Et justement, les empreintes bancaires, selon vous, est-ce la solution pour éviter le no-show, donc, comme on appelle ça, cette pratique de ne pas avertir le restaurateur que finalement nous ne viendrons pas? Pensez-vous systématiquement à décommander? Dites-le nous au 3210, on attend vos réactions. On passe au sport avec un dog à Paris. Cette fois c'est fait, Renato Sanchez va jouer sous les couleurs du PSG. Après de longues tractations, le club de la capitale s'est mis d'accord, Eric Silvestro, avec le LOSC.
Oui, les deux clubs ont fini par trouver un compromis pour satisfaire l'international portugais, révélation de l'Euro 2016 et qui fêtera ses 25 ans le 18 août. Paris, qui souhaitait un prêt avec option d'achat obligatoire pour conserver des liquidités, a finalement accepté de verser 15 millions d'euros à Lille pour acheter la dernière année de contrat de Renato Sanchez. L'ancien joueur du Bayern Munich était la priorité de Luis Campos et Christophe Galtier, artisans de sa relance dans le Nord. Le LOSC, qui avait une proposition de 16 millions d'euros de l'AC Milan, encaissera quasiment la même somme. Renato Sanchez reste donc en Ligue 1, on peut s'en réjouir, et son arrivée ouvre la porte au départ du flop Wijnaldum à la Roma.
Merci beaucoup Eric. On n'a pas eu de footballeur dans les métiers testés par les journalistes cet été. Je dis ça, je dis rien.
On n'a pas la condition physique.
Mais dans un instant, en tout cas, on découvrira le quotidien d'un cariste. Restez avec nous.
RTL Midi. RTL en immersion.
C'est l'un de vos rendez-vous de l'été. Restaurateur, pilote de ligne, gardien de musée. Le temps d'une journée, les journalistes de RTL changent de métier et nous offrent chaque jour une véritable immersion. Ce midi, je vous le disais, nous partons dans le monde de la logistique et c'est grâce à vous, Anaïs Bouissou. Bonjour.
Bonjour.
On a suivi au printemps le passage de votre diplôme pour conduire un engin élévateur, votre embauche en entrepôt et on ne résiste pas à retourner en immersion dans votre vie de cariste.
Il est 6h du matin, à une demi-heure de route de Paris, quand j'ouvre pour la première fois la porte d'un immense entrepôt. Un nouveau monde s'ouvre à moi, une immense valse de chariots, palettes, colis, des étagères de plus de 10 mètres de haut.
C'est un entrepôt qui fait 12 000 mètres carrés.
Je suis accueillie par Ali.
C'est moi, tant responsable, on peut se tutoyer.
Très bien.
Là, ce qu'on entend, c'est un transpalette.
Oui.
J'ai hâte de conduire mon nouveau chariot élévateur, mais petite déception.
On va y aller doucement.
D'accord.
D'accord, parce que c'est pas facile, les engins, d'être à l'aise dessus.
Sans expérience, je dois d'abord vérifier les numéros des palettes qui entrent.
Mokhtar, faut la faire travailler aujourd'hui.
0027, James Bond. Appuie sur le bouton pour... Voilà. Très bien, là tu es là, c'est bon.
Oh là là.
Malgré 2-3 erreurs...
Là, il manque 11 colis.
Mokhtar m'a déjà adopté.
Si tu veux lâcher le journalisme, tu viens avec nous. Hein. Bienvenue.
Le métier commence à entrer et le deuxième jour, je peux décharger des palettes sur un chariot élévateur. Je m'approche de la machine, je déverrouille le code.
Voilà.
Ceinture, rétroviseur...
Regardez derrière, déjà ça c'est bien, c'est un bon point.
C'est déjà pas mal.
Jusqu'ici, tout va bien. Je me dirige vers des palettes empilées pour les ranger.
Respire.
Et là, je vais là-bas.
Là, tu peux poser dedans.
Sous les regards bienveillants de JP et Stipe.
Pour quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie, c'est magnifique.
Plus tu vas manipuler, plus ça va être facile, forcément.
Vous restez à côté de moi, alors.
Ah ben oui, on sera toujours là.
Autour de moi, les machines roulent vite. Dans tous les sens, c'est un flot incessant de portes, plâtres, carrelages à décharger.
Vous l'avez fait toute seule.
Mais en plus, t'as assez...
L'un des rois de l'entrepôt.
Bah là, je vais commencer à décharger.
Mon collègue de chariot.
Tu vas travailler avec moi.
C'est Barak, 59 ans.
Mon prénom, c'est Imba. Mais tout le monde m'appelle Barak. Voilà, on me dit, ouais, tu ressembles à Barak Obama. Barak Obama, c'est un bel homme.
Et entre deux palettes.
Oh, rien de rien.
J'ai eu droit au grandiose tour de chant du président.
Non, je ne regrette rien. C'est juste pour mettre ambiance. La vie est tellement difficile aujourd'hui.
Dans l'équipe, l'ambiance est bonne, mais je prends conscience au fil des jours que le danger est partout. Quelques mètres de moi, une palette s'écrase au sol.
Je suis sorti du camion. Au moment où j'allais tourner, la palette a basculé. Et la palette est coupée en deux.
C'est grave ou c'est pas grave?
Ça peut être grave. Si jamais il y a un collègue ici, je peux tomber sur lui. Là, c'est très dangereux.
On limite les risques en s'équipant.
On porte des gants, on porte les gilets. Les chaussures de sécurité sont obligatoires. Sans ça, on ne peut pas travailler.
Mais la vigilance reste notre meilleur allié.
On l'entend, hein, carton à porter, horaire décalé, du danger. Les conditions ne sont pas faciles. Pour quel salaire, Anaïs ?
Le salaire, c'est le SMIC ou un peu au-dessus.
En net, ça fait 1300, un truc comme ça à peu près.
Moi, presque 1400 euros.
Et quand les performances sont au rendez-vous, il y a quelques primes en plus.
Parfois, on a eu 200 euros, parfois, on a eu 2000 euros.
C'est mieux avec les primes. Si t'as que ton salaire, t'auras pas de voiture, tu pars pas en vacances, tu vis pas.
Malgré les difficultés, Anaïs, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous aimeriez devenir chariste?
En fait, je suis chariste. Pour vraiment conduire un chariot élévateur, j'ai passé un diplôme qui est valable 5 ans. Et depuis cette expérience, on m'a même déjà proposé plusieurs missions. Pourquoi pas y retourner un jour? Les besoins sont immenses, hein, dans la logistique. Et j'ai adoré mon équipe.
Rachida, ça va?
Oui, ça va. Ils m'appellent tous la princesse.
Ils t'appellent la princesse?
Oui, la princesse. On est une équipe trop soudée, voilà.
Une vraie équipe de femmes et d'hommes, même après le travail.
Et j'ai une question. Qui fait le meilleur couscous au monde?
C'est Rachida!
Oui! Et qui fait le meilleur thé au monde?
C'est Rachida!
Bravo! Et c'est qui la meilleure équipe au monde?
C'est nous!
Ouais, c'est nous!
Quel bonheur, vous pouvez réécouter hein, ce reportage, ce RTL en immersion d'Anaïs Bouissou sur notre site RTL et notre appli. Vous pouvez également écouter tous les autres épisodes déjà diffusés à l'antenne. Dans un instant, il sera à 13h, l'heure de vous retrouver, chers auditeurs. Vous avez la parole au 3210, à tout de suite.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.